Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, ultime mise en garde. Le mirage du leadership. Et des gars, une fille. Bonne écoute.
Ultime mise en garde, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans la presse. Le Canada deviendra le premier pays au monde à exiger des avertissements sanitaires imprimés directement sur les cigarettes individuelles, a annoncé mercredi le gouvernement Trudeau. Une mesure acclamée par des groupes de santé, mais qui suscite l'incompréhension de l'industrie du tabac. La cigarette endommage vos organes. La cigarette cause l'impuissance. Du poison dans chaque bouffée. À partir de 2025, chaque cigarette, petit cigare ou autre produit du tabac sera individuellement doté d'un avertissement pour les consommateurs. L'annonce a été faite mercredi par la ministre de la Santé mentale et des dépendances, Caroline Bennett, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. L'objectif est d'aider les adultes qui fument à arrêter, protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine et réduire l'attrait du tabac. À partir de l'année prochaine, ces nouvelles mesures contribueront à faire en sorte que chacun puisse recevoir des informations crédibles sur les risques du tabagisme afin de faire des choix plus sains pour son bien-être, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos. Dès avril 2024, les détaillants devront vendre des produits du tabac affichant de nouveaux messages relatifs à la santé. Les cigarettes de format long seront les premières à arborer des avertissements sanitaires individuels d'ici juillet 2024. Par la suite, les cigarettes de format standard, les petits cigares avec papier de manchette et les tubes devront également comporter ces avertissements d'ici avril 2025. Informer les jeunes. Ça semble être une bonne idée. C'est une innovation du côté du gouvernement fédéral de faire ce genre de pas de l'avant. Il faut saluer ces initiatives, surtout du point de vue de la santé des enfants, a déclaré à la presse le Dr Nicolas Chadi, pédiatre au CHU Sainte-Justine et auteur des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie sur le tabagisme et le vapotage. L'avertissement imprimé directement sur les cigarettes concerne particulièrement les jeunes qui pourraient ne pas prêter attention à l'emballage, a indiqué le gouvernement fédéral. Parfois, chez les enfants et les adolescents qui commencent tôt à fumer, ils ne vont pas acheter eux-mêmes un paquet de cigarettes, ils vont s'en faire donner ou vont demander des cigarettes individuelles à des pères ou à des membres de leur famille. Donc, d'avoir cet avertissement sur chaque cigarette, ça augmente les chances qu'ils reçoivent le message, explique le Dr Chadi. Un effet aversif et repoussant. Il est difficile de savoir quel impact auront réellement ces nouvelles mesures, indique le Dr Chadi. Or, certaines études ont démontré que de mettre des avertissements et des images graphiques sur les paquets de cigarettes peut avoir un effet aversif et repoussant pour les enfants et les adolescents, note le spécialiste. Le gouvernement fédéral a prévu d'effectuer une rotation dans les messages affichés sur les produits du tabac et les paquets selon un calendrier prédéterminé. Le contenu des messages liés à la santé, comme les images et le texte, pourra aussi être modifié pour refléter les recherches scientifiques les plus récentes. Le Canada souhaite que ces nouvelles mesures contribuent à réaliser son objectif d'atteindre un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035. En ce moment, on est à environ 12 %, donc plusieurs mesures doivent se multiplier pour atteindre l'objectif, a indiqué le directeur des relations gouvernementales au Québec à Cœur plus AVC, Kevin Bilodeau, qui s'est réjoui de l'annonce. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a également accueilli avec enthousiasme le nouveau règlement. Comme n'importe quelle publicité inchangée depuis 10 ans, les avertissements qui se retrouvent depuis 2011 sur les paquets de cigarettes avaient perdu de leur efficacité auprès des fumeurs et leur entourage, a déclaré dans un communiqué Florie Duca, co-directrice et porte-parole de la coalition. Vous écoutez « Ultime mise en garde », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans la presse. Une mesure contre-productive. Pour Éric Gagnon, vice-président aux affaires juridiques et externes chez Imperial Tobacco Canada, il est difficile de comprendre le raisonnement du gouvernement concernant ces nouvelles réglementations. Il soutient notamment que ces mesures n'auront aucun impact sur le marché canadien illégal de cigarettes, qui bénéficiera à nouveau d'un avantage concurrentiel par rapport aux fabricants de tabac légaux, dit-il. Il estime par ailleurs que ces nouvelles réglementations exigeront plus de 20% d'emballage en carton et environ 19% d'encre en plus par rapport aux emballages de cigarettes actuels. Cette mesure semble contre-productive alors que les gouvernements tentent de réduire la charge des emballages sur l'environnement, dit-il. Mesures à venir. 31 janvier 2024, les fabricants devront afficher 14 nouvelles mises en garde illustrées sur l'extérieur des produits du tabac. Les messages apparaissant à l'intérieur des paquets devront également être améliorés. 30 avril 2024. D'ici un an, les fabricants devront ajouter des avertissements sanitaires à même les cigarettes de format long, soit d'une longueur de 83 à 85 mm. 31 janvier 2025. Ce sera ensuite au tour des cigarettes de format standard, soit de 70 à 73 mm, des petits cigares avec papier de manchette et des tubes d'arborer des avertissements sanitaires. 31 juillet 2026, ultime étape de ce nouveau règlement, le rabat supérieur des paquets de cigarettes affichera des messages d'information sur la santé. La longue bataille contre le tabac. De l'interdiction de fumer dans les écoles à l'introduction d'emballages de cigarettes neutres, le Québec et le Canada ont mis en place une série de mesures strictes pour combattre le tabagisme dans les dernières décennies. Retour en arrière. 1986, le début d'un élan. Il devient interdit de fumer dans les organismes gouvernementaux, municipaux, scolaires et les établissements de santé et de services sociaux du Québec. Le règlement ne s'applique toutefois pas dans un lieu réservé à l'usage du personnel ou dans un fumoir. La cigarette est également bannie à bord de tous les avions canadiens durant les vols de 2 heures au moins. 1998, au boulot, c'est non. La cigarette est bannie des milieux de travail. Dans les restaurants, 40% des places réservées à la clientèle au maximum peuvent être désignées comme des places où il est permis de fumer. 2000, images choquantes. Le Canada instaure pour la première fois des règles concernant des images choquantes sur les emballages de cigarettes dans le but de montrer les dangers pour la santé et les effets néfastes du tabagisme. 2003, des noms disparaissent. Le Canada interdit toute promotion liant une marque de cigarette à une activité sociale, culturelle ou sportive. Le stade de tennis du Parc Jarry perd son appellation de « Stade du Maurier ». De son côté, Imperial Tobacco Canada abolit son équipe Players et sa fondation Mode Matinée. 2006, interdite dans les bars. Il devient interdit de fumer dans les bars, les brasseries, les tavernes et les salles de bingo au Québec. Les aires fumeurs dans les restaurants, les centres commerciaux, les salles de quilles, les salles de billard, les centres de congrès et les autres lieux de divertissement disparaissent également. 2008, soustraite à la vue des clients. Les détaillants sont tenus de cacher les produits du tabac de la vue des clients. Cette mesure vise à décourager l'achat impulsif de cigarettes et à réduire l'exposition des jeunes aux produits du tabac. 2011, un message qui prend de la place. Les avertissements illustrés doivent désormais occuper 75 % du recto et du verso des paquets de cigarettes. Ces avertissements sont accompagnés de messages de santé colorés et d'images, ainsi que de déclarations claires sur les émissions toxiques et les substances dangereuses. 2016, interdite avec des enfants à bord. L'interdiction de fumer dans les véhicules en présence de personnes de moins de 16 ans entre en vigueur au Québec. Cette mesure vise à protéger les enfants des effets néfastes de la fumée secondaire. La même année, il devient interdit de fumer à moins de 9 mètres des portes et fenêtres des bâtiments publics, ainsi que sur les terrasses des restaurants et des bars. 2019, le format du message. Les emballages et les produits du tabac doivent adopter une apparence neutre. Tous les emballages de produits du tabac doivent être d'une couleur brun terne uniforme et ne contenir que le texte autorisé, présenté dans un format standardisé en ce qui concerne l'emplacement et les caractères utilisés, police, couleur et taille. C'était « Ultime mise en garde », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans la presse. Le mirage du leadership, un texte de Myriam Jézékel, paru le 29 mai 2023 dans la presse, d'abord paru dans le magazine Gestion HEC Montréal. Myriam Jézékel est rédactrice à Gestion HEC Montréal. Pourquoi les modèles traditionnels de leadership échouent-ils si fréquemment? Les neurosciences offriraient un début de réponse à cette question. Dans un récent ouvrage, Le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences, publié aux éditions Odile Jacob, James Teboul et Philippe Damier identifient 7 biais cognitifs qui sont à la source du mirage des théories de leadership et proposent des manières de les contourner. On aime tous entendre parler de leadership, mais se pourrait-il que notre cerveau nous leurre constamment quant aux enseignements à tirer des modèles classiques de management? L'objectif de ce livre est de montrer comment le leadership moderne, qui prône la collaboration et qui est prescrit et enseigné sous forme de modèle a priori raisonnable et engageant, se fait en réalité rogner les ailes en raison des prédispositions et biais de fonctionnement de notre cerveau, affirment les auteurs. Le ton est donné. Comment échapper alors à cette illusion de rationalité? Un cerveau sous influence. Force est de constater que les modèles prescriptifs n'aboutissent pas et que les comportements résistent et reviennent sans cesse à un schéma centralisé, autoritaire, transactionnel, éloigné de l'esprit de coopération depuis longtemps prôné par les programmes de leadership, constatent les auteurs. Sont-ce les leaders qui sont blâmables ou nos modèles de leadership qui ne sont pas appropriés? La manière dont fonctionne le cerveau montre que nous restons en fait le plus souvent soumis à nos affects, nos habitudes ou nos inférences. Si le modèle bureaucratique taylorien, selon lequel certains dirigent, d'autres exécutent, résiste au passage du temps, c'est qu'il s'appuie sur le fonctionnement comportemental du cerveau humain avec d'un côté le lobe préfrontal qui gère la conception et la planification des tâches et de l'autre le système des noyaux gris centraux qui gère les automatismes de l'exécution. Les 7 biais capitaux. Le modèle leader-suiveur est renforcé par les penchants naturels du cerveau et ses biais cognitifs, insécurité, immédiateté, égocentrisme, sens de la hiérarchie, tentation du moindre effort, confirmation des croyances et besoin de conformisme social. Ces modes primaires de fonctionnement du cerveau sont tous responsables de nos comportements automatiques. Pour contrecarrer ces biais plus émotionnels que rationnels, les auteurs prônent un modèle de leadership apprenant qui a pour objectif de chercher en permanence à augmenter la valeur perçue par le client et les diverses parties prenantes. Une façon détournée de désapprendre nos modes de pensée pour mieux remettre nos choix en question, modifier le cadrage d'un enjeu et développer une intelligence prédictive ou un jugement plus intuitif. Plus de rationnel. Si la coopération transversale n'est pas un comportement naturel, n'y a-t-il alors aucun espoir de mettre en œuvre un travail collaboratif? Les auteurs défendent l'idée selon laquelle un style de management ouvert, axé sur la qualité du service et de la relation, peut avoir raison de nos penchants naturels. Conforter la confiance et favoriser une culture d'engagement relationnel sont deux pratiques qui permettent de contrecarrer les mauvais plis cérébraux. Seule la collaboration et la réciprocité peuvent nous sortir du mode transactionnel pour construire une organisation davantage apprenante et solidaire, orientée vers des objectifs à long terme. Et si cela ne suffit pas, l'ouvrage offre un questionnement et un travail d'explicitation pour se tenir à distance de chaque biais afin d'en réduire l'influence. C'était « Le mirage du leadership », un texte de Myriam Jézéquel, paru le 29 mai 2023 dans la presse.
Des gars, une fille, un texte de Justin Vézina, paru le 23 mai 2023 dans la presse. Quelques flocons tombent timidement sur le vieux Terrebonne lors d'un mercredi matin voilé de mai, ce qui trahit toute conception d'un été imminent. Raphaël Tousignan entre en trombe dans le café brûlerie de la rivière où elle a convié la presse. « Désolée d'être arrivée un peu juste », lance-t-elle, alors qu'une reprise de « Free Fallin' » par John Mayer joue en arrière-plan et que la neige fond à vue d'œil sur son veston noir et sur ses mèches blondes. « Je crois qu'ils installent les terrasses où ils font de la construction », précise-t-elle. Une fois son café glacé à la main, elle s'installe sur une banquette de cet estaminet rustique presque western, pour parler de ses défis, ses réalisations, ses moments de doute comme d'allégresse. C'est un peu à l'image des dernières semaines de la joueuse de para-hockey. Les choses changent et sont remplies de surprises, bien plus grandes que le retour des terrasses. Il y a deux semaines à peine, Raphaël a appris qu'elle représentera le Canada au championnat du monde masculin qui se tiendra à la fin du mois. Elle deviendra alors la première femme à prendre part à une compétition masculine d'envergure de para-hockey en arborant le chandail de l'unifolié. En un claquement de doigts, Raphaël est devenu le visage du para-hockey féminin et possiblement du para-hockey canadien. « Je ne réalise pas encore tout ce que ça implique », admet-elle. « J'ai eu ce rôle de porte-parole par la bande. Certains jours, j'embrasse ce rôle, d'autres, moins. Je ressens une petite pression supplémentaire car je me dis que je représente le para-hockey féminin au complet. Je me dis c'est quoi le message ou l'impact que ça envoie si je n'ai pas le tournoi que je souhaite. C'est une pression que je mets moi-même. Mais je suis aussi contente d'avoir ce titre. Dans les dernières années, je m'étais faite à l'idée que mon rôle était juste d'ouvrir les portes aux futures générations. Je me disais que si je n'allais pas aux Jeux paralympiques, mais que j'étais capable de faire avancer le sport du côté masculin pour le développer du côté féminin, peut-être que les futures générations n'auraient pas à se soucier de savoir si elles pourront aller aux Jeux paralympiques. Car quand j'ai commencé, Je croyais que je pouvais y aller. En fait, c'est le rêve de Raphaël, celui d'un jour porter les couleurs du Canada aux Jeux paralympiques, et ce, dans son sport. Le hic, c'est que le volet féminin n'existe pas au para-hockey. Le constat, près de 30 ans après l'intégration de ce sport au programme paralympique, seulement 3 femmes y ont participé et jamais du côté des 2 puissances nord-américaines, le Canada et les États-Unis. Une affirmation qui pourrait devenir caduque après les Jeux de Milan-Cortina, alors que l'attaquante sera assurément dans les plans de la direction canadienne. Frappé par le destin. Raphaël n'était pas prédestiné à devenir la prochaine première de classe du para-hockey. Jeune, elle s'intéresse à de multiples sports comme le soccer et la danse. C'est toutefois à 8 ans que son père l'initie à la ringuette, un sport duquel elle tombe amoureuse. 2 années plus tard, elle subit une vilaine chute en jouant à son sport favori. « Je pensais que c'était un bleu », se rappelle-t-elle. Mais plus ça allait, plus c'était pire. Ça chauffait beaucoup et je n'étais plus capable de dormir sans ice pack. Quelques mois plus tard, la cause de ses douleurs est connue et porte un nom, l'ostéosarcome. Ce type de cancer des os s'est installé dans sa hanche droite et dans son nerf sciatique. 2 grandes options ont émergé. Elle pouvait soit avoir une jambe molle, qu'elle traînerait pour le restant de ses jours, ou une amputation de sa jambe droite. Après avoir analysé le pour et le contre, elle se fait amputer la jambe droite à 10 ans. Le seul point pour lequel toute ma vie s'arrêtait, c'était pour le sport. J'ai pleuré quand j'ai su que j'allais me faire amputer. Ce n'était pas parce que je n'allais plus marcher, car il y a des options pour ça, mais vraiment parce que j'avais peur de ne plus pouvoir faire de sport, se souvient-elle. Un rêve cultivé. Puisqu'elle devait faire des traitements de chimiothérapie après l'amputation, Raphaël a dû attendre encore avant de retrouver l'activité physique et surtout de renouer avec la glace. Quand, après une année d'attente, elle essaie enfin le para-hockey, c'est le coup de foudre. J'ai tout de suite dit à mon père que je voulais faire l'équipe nationale féminine, se remémore Raphaël Tousignan. Il m'a dit « Oh, commence par tenir sur ta luge, on verra après. » De fil en aiguille, Raphaël progresse. À seulement 14 ans, elle se taille à un poste avec l'équipe féminine senior. À 16 ans, elle représente le Québec chez les hommes lors des championnats nationaux. Toute cette lancée est freinée par la COVID-19. Une pause presque salutaire. En plus de se rétablir de quelques blessures, elle prend en main sa nutrition et sa préparation physique et mentale pour devenir une athlète de niveau international. Tout était en place pour l'éclosion de Raphaël Tousignan. À 20 ans, c'est la consécration. Elle est invitée à participer à une série de matchs contre les Américains, tout en sachant que les joueurs sont en audition pour une place au championnat du monde. Or, l'attaquante voit surtout ce camp comme un endroit où les joueurs, déjà dans l'équipe, viennent confirmer leur statut. Elle y connaît le camp de sa vie et, à sa plus grande stupéfaction, elle est choisie pour le championnat du monde. Jamais de la sainte vie je n'ai cru que j'étais dans l'équation. Jamais. Je n'avais pas fait l'équipe avant, alors je n'étais pas en évaluation. J'ai fait le camp et j'étais confiante. Je jouais super bien et les joueurs en parlaient, se souvient Raphaël Tousignan. Que veut-elle dire par « les joueurs en parlaient » Eh bien, ses coéquipiers avaient un droit de parole sur les sélections. Ils devaient tous mentionner un joueur ou, Dans ce cas précis, une joueuse s'étant particulièrement démarquée lors des rencontres et qui méritait sa place pour le mondial qui sera disputé à Moose Jaw à la fin de mai. Le nom de Raphaël est sorti de façon quasi unanime et le tour était joué. J'étais un peu sous le choc, avoue-t-elle. Encore à ce jour, je le réalise, mais pas complètement. On dirait que j'ai tellement voulu ça pendant des années, et même si ça arrive, on dirait que je vais juste y croire quand je vais y être. Ce n'était pas vraiment prévu. Je n'ai même pas pleuré quand j'ai appris la nouvelle, alors que les coachs, oui. C'est un autre jalon pour Raphaël Tousignan, la para-hockeyeuse. Un autre exploit pour la pionnière. Et surtout, le début de quelque chose de grand pour la future paralympienne. Mais pour l'instant, je ne vais qu'être Raphaël, ose-t-elle tempérer. C'était « Des gars, une fille », un texte de Justin Vézina, paru le 23 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Justine Langevin, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.